Bonjour à tous. Vous écoutez bien France Culture, il est midi, dans quelques instants ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite les titres du journal de 12h30 avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. 3,5 millions de téléspectateurs hier soir pour cette émission Dialogue Citoyen sur France 2. C'est trois fois moins que lors de la dernière apparition du chef de l'État le 11 février dernier, François Hollande, qui assure suivre depuis 4 ans un fil conducteur, à savoir moderniser le pays tout en protégeant son modèle social. Il a promis donc de poursuivre jusqu'au bout les réformes engagées, et en particulier la loi travail de Myriam El Khomri, qui ne sera pas retirée, a-t-il dit. On reviendra sur cette intervention. Au même moment, à Londres, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, soutient lui que l'exécutif a décidé d'arrêter une partie des réformes, ce qui lui a valu ce recadrage présidentiel. Qu'il veuille s'adresser aux Français, je ne vais pas l'en empêcher, mais il doit rester dans l'équipe sous mon autorité. Commentaire avec Anne Fauquemberg tout à l'heure. Mise en garde du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, les auteurs de violence en marge des manifestations contre la loi travail, mais aussi des rassemblements du mouvement Nuit Debout, seront inlassablement interpellés, poursuivis, a-t-il dit. Déclaration faite en marge d'un déplacement à Orléans, au lendemain, effectivement, de nouveaux heurts à Paris, à Montpellier. Au total, 151 policiers ont été blessés depuis le début de ces manifestations. Nous ferons le récit de tout cela avec Arnaud Contreras dans l'édition de la mi-journée. Puis nous parlerons aussi de la réunion du G20, les pays européens qui déclarent vouloir lutter contre l'évasion fiscale. Ils veulent savoir qui se cache derrière des sociétés écrans et dresser aussi une liste noire de pays. L'invité de la séquence interview, ce sera Hélène Geoffroy, qui est secrétaire d'État à la ville. Caroline Brouet, c'est à vous pour la
Grande Table. Oui, et puis une triste nouvelle. On évoquait son nom lundi en visitant l'exposition consacrée à Sédou Keïta. Eh bien, on vient d'apprendre la mort du photographe malien Malik Sidi Bé, surnommé l'œil de Bamako. Il avait 80 ans. Il était le chroniqueur de la vie bamakoise dans les années 60-70. Il laisse une œuvre considérable, des photos magnifiques. Pour lui rendre un très court hommage en réaction, puisqu'on vient de l'apprendre, nous sommes au téléphone avec le directeur des rencontres de la photographie d'Arles, Sam Stourdze. Bonjour.
Bonjour.
Il se trouve que vous allez montrer quelques images de Malik Sidi Bé dans cette Arles 2016, cette édition d'Arles cette année, puisque vous allez y consacrer un swinging Bamako. Qu'est-ce que vous diriez des photographies de Malik Sidi Bé ?
Ah ben, elle raconte l'Afrique, elle raconte une époque, elle raconte un pays. C'était avec Seydou Keïta les grandes découvertes d'une photographie africaine puissante. Et on se faisait une joie de montrer son travail dans cette histoire assez amusante des Maravillas, ce groupe de musique malien formé à Cuba. Et qui raconte ce Mali de la fin des années 60 et toutes les années 70. Et c'est vraiment l'époque où Malik Sidi Bé photographiait la rue, photographiait la vie à Bamako. Il avait ce studio de fortune où les gens venaient, passaient, se faisaient photographier. Il allait de soirée en fête. Il connaissait absolument tout le monde, et son témoignage est assez unique. On aurait préféré rendre cet hommage avec lui parmi nous. Ça sera désormais un hommage posthume, mais heureusement, ces photos restent.
Et elles resteront, en tous les cas, tout l'été, du 4 juillet au 25 septembre à Arles, Sam Stourdze, aux côtés de Sakali, dont on évoquait aussi le nom en parlant de Seydou Keïta lundi dans la visite de l'exposition que nous avons faite. Merci beaucoup d'avoir témoigné rapidement aux débeautés comme ça de l'œuvre de Malik Sidi Bé, qu'on retrouvera donc cet été à Arles. Bien sûr, France Culture va lui rendre un hommage dans le Journal de la Culture, notamment ce soir de Zoé Sfez. Merci encore, Sam Stourdze.
Merci à vous.
Et première partie de la Grande Table de notre invité. On connaît surtout ses romans, dont celui d'ailleurs pour lequel elle a obtenu le Goncourt en 2009, Trois femmes puissantes, ou Rosie Carpe, on connaît aussi puisqu'il avait reçu le Femina en 2001, ou encore La Divine, c'est le dernier pour lequel elle a été sélectionnée sur la première liste du Man Booker Prize International. On sait moins que depuis une quinzaine d'années, en parallèle de son œuvre romanesque, cette écrivaine singulière écrit pour le théâtre, la radio et même le cinéma. Elle fut même la première femme, après Marguerite Duras, à entrer au répertoire de la Comédie-Française de son vivant avec « Papa doit manger ». C'est au tour de la scène que nous la recevons aujourd'hui, puisqu'elle a quitté son Berlin d'adoption pour venir présenter deux spectacles en France. Bonjour Marianne Diaye.
Bonjour.
Et bienvenue à la Grande Table. Qui sont présentés en France, disais-je. L'un est une reprise, c'est la reprise d'un travail fait sur votre œuvre, Marianne Diaye, par Georges Lavaudant, à partir d'extraits, de romans, de pièces de théâtre, d'interviews. La première fois qu'on avait pu voir ce spectacle, c'était en 2014, et il le remonte au Bouffe du Nord, à Paris, à la fin du mois. Et puis l'autre met en scène un texte inédit que vous avez déjà montré au Molière Scène d'Aquitaine, dans le cadre du festival Escale du Livre de Bordeaux, et que vous présentez désormais sur la scène, enfin désormais, c'était hier soir et c'est ce soir, c'est très court, j'espère qu'on pourra le voir autrement, mais sur la scène de la Maison de la Poésie à Paris. C'est un texte inédit qui s'intitule Délivrance. La conception scénique a été réalisée par Denis Cointe. On entend la voix gravée de Jean-Yves Sandret et la musique de Didier Lasserre. Ça n'est pas une première donc pour vous de vous produire sur scène. D'ailleurs, vous aviez collaboré avec Denis Cointe pour un spectacle intitulé Didicht en 2011. Vous avez déjà écrit des pièces de théâtre, mais est-ce que ce n'est pas la première fois qu'il s'agit d'un texte littéraire sur scène, c'est-à-dire pas une pièce de théâtre, mais un texte littéraire sur scène avant même d'être édité, Marianne Diaye? Vous plongiez dans vos archives.
Oui, c'est une forme absolument inédite pour moi. Le précédent travail avec Denis Cointe, en effet, j'étais sur scène, je lisais le texte que j'avais écrit pour cette occasion. Cela durait une heure environ et il y avait de la musique, deux musiciens sur scène et un film qui passait en fond. On a tourné quelques temps, surtout dans le sud-ouest de la France, en Allemagne un peu aussi avec ce spectacle. Et quand, avec Denis, on a évoqué une nouvelle collaboration, j'ai souhaité que ça se passe différemment. Je ne souhaitais plus être sur scène avec les contraintes que cela impliquait, mais j'étais tout à fait d'accord pour écrire un texte exprès pour lui, en quelque sorte. Et donc c'est encore différent. J'ai écrit sous forme de lettre un texte que Jean-Yves Sandret a lu. Denis Cointe a enregistré Jean-Yves Sandret lisant ce texte. Et hier soir, nous avons découvert le spectacle de Denis Cointe. La voix de Jean-Yves est diffusée. Il y a une projection d'images. Didier Lasserre joue sur scène. Et Denis Cointe est présent aussi, mais de la manière la plus discrète. Il ne dit rien.
Vous disiez que c'était une forme inédite, c'est aussi une forme littéraire inédite. Peut-être pour vous, ce texte épistolaire qui ressemble malgré tout à un monologue, mais effectivement, il s'agit d'un homme qui lit ou qui a écrit des lettres à sa compagne, absente, et toutes les lettres commencent par « ma chérie », mais c'est une succession de lettres qu'il lit, donc entre le monologue et le texte épistolaire. Là aussi, forme inédite, non, Marianne Diaye?
Oui, oui, c'est une forme épistolaire, mais sans réponse, c'est-à-dire on n'a que les lettres de cet homme. On ne sait pas d'ailleurs qui a trouvé ces lettres, qui a fait que ces lettres nous arrivent, en quelque sorte, puisqu'elles sont dites par une voix d'homme, donc elles sont censément dites par celui qui les écrit, alors qu'elles auraient pu aussi être dites par celle qui les a probablement reçues. Mais on ne sait précisément pas si ces lettres sont arrivées, entre les mains de qui elles sont arrivées, si même finalement elles ont été réellement écrites ou seulement imaginées par cet homme qui attend sa femme qui doit le rejoindre dans la lointaine contrée où il vient d'être muté. Il a pris un poste au consulat.
Au consulat, on sait qu'il travaille au consulat.
Femme et enfant doivent le rejoindre, ne le rejoignent pas. Il ne comprend pas pourquoi. Il écrit désespérément ou il appelle désespérément en quête d'une réponse que manifestement il ne reçoit pas. Et il finit par prendre son parti douloureusement de cette solitude, de ce silence, et par se trouver délivré donc de l'attente douloureuse dans laquelle il se trouvait.
Ma chérie, bien que n'ayant encore reçu aucune lettre de toi, je me permets de t'écrire à nouveau. D'abord pour honorer la promesse que je t'ai faite de te raconter en détail la vie que je mène ici. Ensuite, parce que t'écrire me donne l'illusion que tu es là, près de moi. Ton regard grave posé sur ma bouche tandis que je te parle. C'est pourquoi, s'il n'était que de moi, je pourrais t'écrire chaque jour, je pourrais passer mes journées à t'écrire et je rendrais ainsi mon existence supportable. À moins que, vaincu par l'illusion, je ne devienne fou à tendre le bras vers toi sans jamais te trouver. Oh, ma chérie, pourquoi ne me réponds-tu pas ? Je me suis assis à ma table dans cette grande pièce déserte et froide en me jurant que je ne te reprocherai pas ton silence. Contrairement à moi, tu as beaucoup à faire, l'enfant réclame des soins et tu travailles beaucoup par ailleurs, dans ce métier que tu as choisi et qui, si je ne l'ai jamais complètement approuvé, laver et panser des corps souffrants m'a toujours paru légèrement révoltant pour une belle intelligence comme la tienne, te demande à la fois énergie et patience. Vois un peu, je deviens jaloux de ces vieillards débiles qui ont la chance, eux, de voir chaque jour se pencher vers eux ton merveilleux visage.
Vous parliez de délivrance, Marie Ndiaye. J'ai envie de vous demander, donc, ces délivrances pour lui, puisqu'il se délivre de l'attente douloureuse, mais en parallèle de la délivrance qu'il éprouve, cet homme, à écrire des lettres sans réponse et finalement à se résigner à l'absence de réponse, il y a comme une emprise de lui sur elle qui se manifeste dans les creux de votre texte. Emprise parce que, et il s'en rend compte d'ailleurs lui-même au bout d'un moment, il a une forme d'insistance. À un moment, il utilise le mot de jalousie, mais je ne sais pas si ce serait le bon en l'occurrence quand on parle de cette emprise. C'est surtout une espèce de lourdeur d'un amour qui pèse sur elle aussi, ou qui pense faire peser sur elle, et en particulier à travers des phrases qui sont très récurrentes et qui sont très propres à vous sur la famille. C'est-à-dire qu'il lui demande toujours elle est allée voir ses parents à lui. Il lui reproche, alors qu'on comprend qu'elle est infirmière et qu'elle s'occupe de vieillards, il lui reproche de ne pas s'occuper aussi bien de ses parents à lui qu'elle s'occupe d'inconnus. Et il lui demande constamment, es-tu allée les voir ? Es-tu allée les voir ? Sous-entendu, mes parents. Et la phrase, c'est cette phrase qui revient le plus. Et finalement, on sent tout le poids qu'il sans doute lui faisait peser. Peut-être est-ce là l'explication pour laquelle elle ne répond pas. Donc, délivrance du poids d'un côté, mais emprise de l'autre. Ça, c'est très fort dans votre texte.
Oui, tout à fait. Il finit par comprendre que peut-être, bien que l'aimant, il ne l'aime pas d'un amour si léger qu'elle puisse se trouver bien de cet amour. Il comprend qu'il pèse en effet sur elle, que l'amour qu'il éprouve ou qu'il dit éprouver la contraint, la bride, et que peut-être en ne lui répondant répondant pas, en effet, elle se délivre de lui, mais il ne comprend pas qu'elle ne l'exprime pas, car elle pourrait aussi se délivrer de lui en le lui disant, et elle ne lui dit rien. Il n'y a que le silence qui répond à ce qu'il tente de comprendre. Enfin, il tente de comprendre si même le problème est là, s'il est trop lourd, et il n'a jamais l'explication. Finalement, il se la donne à lui-même, il tâche de se faire comprendre à lui-même que c'est sans doute cela, mais il reste dans l'incertitude.
Vous parliez, Marie-Anne Diaye, de votre rapport à la scène et du fait que ce texte-là, par exemple, avait été écrit pour Denis Cointe. C'est un texte qui a été écrit pour la scène, vous ne saviez pas ce que ça allait donner. Est-ce que vous pensez votre œuvre pour la scène, pour le théâtre, à côté ou de la même façon que vous pensez votre univers romanesque? Est-ce que pour vous c'est un tout? Est-ce que vous les pensez faits du même matériau? Je vous pose cette question parce que on retrouve bien évidemment la même Marie-Anne Diaye dans justement ces motifs, par exemple la famille, mais aussi cette inquiétude qui sourd constamment d'une écriture qui peut paraître très très douce, qui est très douce, avec un côté lancinant, un côté très calme, mais en dessous de laquelle gronde constamment un monde de douleur. Ça, on le retrouve dans votre écriture romanesque. Elle est présente là, par exemple, dans ce texte Délivrance. Est-ce que pour vous, ces deux jalons, théâtraux et romanesque, sont faits de la même... Évidemment, c'est vous, mais... Vous les pensez de la même façon, disons.
Oui, exactement. D'ailleurs, quand il m'arrive de ressonger à des livres que j'ai écrits, il m'arrive de ne plus savoir exactement si c'est un roman, si c'est une pièce, si c'est une nouvelle. Je travaille exactement de la même manière, ces formes différentes. Ce qui change, c'est seulement finalement une question de... présentation, de forme, de longueur, de technique, en somme, et ce n'est pas le plus important. Je les pense et je les écris exactement de la même manière. Ce ne sont pas deux univers différenciés dans la manière dont je les envisage, ces travaux-là.
Le rythme est le même. On pense le rythme de la même façon quand on travaille un texte romanesque ou quand on travaille un texte qui doit être dit sur scène?
En ce qui me concerne, oui, quand je travaille un texte pour la scène, je ne pense jamais à la manière dont il sera dit. Je ne pense jamais à qui va le dire. Et d'ailleurs, je me rends compte que aussi longues parfois que soient les phrases, ce n'est pas un problème pour qui va les dire. Enfin, tout est dissible, tout peut s'apprendre. Et je ne pense pas la scène, mais c'est aussi moins un choix qu'une incapacité à le faire. Je me sens vraiment incapable de réfléchir en termes de scène, de jeu, de mise en scène. C'est absolument pas mon métier.
Ça veut dire, Marie-Anne Diaye, que vous n'envisagez pas, par exemple, qu'un texte romanesque, aujourd'hui, soit mis en scène, où vous dites, si quelqu'un d'autre que moi pense la scène, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, il peut s'en emparer.
Absolument,
mais il
oui.
n'est pas au départ pensé comme tel. C'est-à-dire que c'est une distinction entre vous, l'auteur, et ce qu'on fait ensuite de votre texte. On peut faire ce qu'on veut, y compris d'un texte romanesque.
Ah oui, oui, oui. Après, je trouverais peut-être un peu dommage que, puisque des pièces existent, qu'on torture un texte romanesque pour le mettre en scène. Mais j'ai vraiment ouverte à toute idée de ce genre. Enfin, ça ne me gênerait absolument pas. Mais moi, je serais incapable de faire une chose pareille.
Alors, nous avons posé la question à Georges Lavaudan, qui a donc la question de votre écriture, à Georges Lavaudan, qui a donc choisi de faire un spectacle sur scène à partir d'extraits de vos romans, d'interviews aussi, des pièces de théâtre, Marie-Anne Diaye. C'est Clémence Marie qui l'a joint par téléphone. Écoutez Georges Lavaudan sur votre écriture.
son écriture a vraiment très très fortement évolué, mais il y a toujours au centre cette espèce de, il y a quelque chose de néo-kafkaïen, il y a toujours un mystère, un secret, il y a des êtres dont on ne sait pas très bien s'ils sont vivants ou s'ils sont morts, et puis il y a cette espèce d'analyse très très profonde, très personnelle, qui est un regard très très aigu sur la famille, sur les relations entre les parents et les enfants, sur et elle arrive justement à soulever ce quotidien et en faire que tout d'un coup ça devient très énigmatique et très mystérieux. Elle a cette force absolument extraordinaire de pouvoir changer de style tout en creusant presque toujours le même sillon. C'est une écriture qui tient une, comment dire, qui a une puissance humoristique, mais qui n'est pas là aussi, qui n'est pas recherchée. C'est pas quelque chose où on essaye de faire rire pour faire rire. C'est que les situations, c'est comme toujours. Enfin, dans Shakespeare, on a ça. Chez Beckett, on a ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, la condition humaine est tellement extravagante qu'on en rit, mais c'est toujours sur un fond de tragique.
Marianne Diaye. Est-ce qu'il voit juste dans votre écriture, par exemple, dans cette écriture qui a évolué mais qui reste néo-kafkaïenne? Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous.
Oui, je vois très bien ce qu'il veut dire et comment il le dit. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il parle de cette dimension humoristique qui n'est peut-être pas, sans doute pas, la première à laquelle on pense quand on me lit. Et quand j'ai vu précisément le spectacle que Georges Lavaudan a présenté, donc dont il est question ici, j'étais très contente de découvrir un spectacle plein d'alacrité, de joie, de grotesque aussi, mais toujours drôle, et ça m'a beaucoup plu qu'il aille dans cette voie-là plutôt que dans celle peut-être plus évidente et facile du sombre.
On rit sur un fond tragique, disait-il. Est-ce que le grotesque dont vous parlez, Marianne Diaye, fait mieux ressortir le tragique de nos existences, ou bien est-ce l'inverse? Est-ce qu'en écrivant avec cette inquiétude sourde, finalement, on voit mieux percer le fond humoristique?
Je ne suis pas sûre que le grotesque fasse mieux ressortir le côté parfois désespérant de l'existence, mais en tout cas, il peut aussi le faire ressortir, il peut le faire ressortir tout aussi bien, et puis le fond n'est pas nécessairement désespérant, c'est-à-dire ce qui sous-tend nos existences n'est pas fatalement terrible. Enfin, ce serait une sorte de lieu commun de la pensée que de voir l'existence humaine comme obligatoirement vouée à l'incompréhension et au désespoir.
L'inquiétude, je disais, est quelque chose qui revient souvent dans votre œuvre, qu'elle soit romanesque ou qu'elle soit théâtrale. C'est un mot que vous utilisez vous-même, que vous avez pu utiliser. C'est un mot que votre éditeur, Jean-Marie Laclaftine, utilisait aussi à propos de votre écriture en 2009, quand vous avez reçu le prix Goncourt. D'abord, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette idée que cette écriture-là ou cette œuvre-là est une œuvre qui met en avant une forme d'inquiétude? Et question corollaire, Marianne Diaye, est-ce que cette inquiétude qu'on sent, ou cette inquiétante étrangeté, disons, qu'on sent dans votre œuvre, correspond à un sentiment, non pas de tragédie de nos existences, mettre ça de côté, mais d'inquiétude d'être au monde?
Alors j'essaie de ne jamais ou presque jamais employer le mot inquiétude ni étrangeté. J'essaie de faire en sorte qu'on ait cette impression-là sans jamais lire ces mots.
Et oui, si, dans l'œuvre, oui. Bien sûr. Hein, c'était à propos de votre œuvre que vous parliez
et,
de ça.
Et si donc les lecteurs ont ces mots qui leur viennent aux lèvres après m'avoir lu, c'est indiscutable. Je ne crois pas qu'on puisse remettre en question la sensation d'un lecteur. Donc très, très probablement, c'est ce qui s'ouvre en effet de mon écriture.
Inquiétude d'être au monde ou inquiétude face au monde? Là, je m'adresse à vous en tant que femme, pas en tant que romancière.
Oui, c'est quelque chose que je n'éprouve pas absolument. C'est-à-dire, je me sens maintenant plutôt quiète, mais j'ai sans doute été inquiète plus jeune. Maintenant, ce n'est plus le cas. D'être au monde ou face au monde, oui, c'était sans doute plutôt une inquiétude face au monde que d'être au monde.
Oui. Marie Ndiaye, on entend là le DJ berlinois Paul Kalkbrenner. Pourquoi un DJ berlinois qui plus est fort connu, en tous les cas chez vous je crois, fort connu, parce que Berlin c'est chez vous, c'est toujours chez vous Berlin, quasiment dix ans après votre départ, vous vous sentez plus chez vous qu'avant?
C'est moins chez moi parce que tout simplement je m'y trouve moins physiquement. Réellement, et que je suis de plus en plus régulièrement et longuement en France. Et maintenant, vraiment, nous partageons, Jean-Yves Sandré et moi, entre Berlin et la France, précisément la campagne sud-girondine.
Quel regard cela donne-t-il d'être à cheval entre ces deux pays aujourd'hui, Marie Ndiaye? Je dis aujourd'hui parce que depuis l'année dernière, depuis les attentats en France d'un côté, depuis l'affaire de Cologne de l'autre, avec au milieu cette grande question qui a touché toute l'Europe et qui continue de toucher toute l'Europe, mais en particulier où l'on a beaucoup parlé de l'Allemagne et de la France, qui est la question des migrants, de l'hospitalité et de l'accueil. Qu'est-ce que cela fait d'être entre les deux pays? Est-ce que cela vous donne un regard un peu plus distancié? Est-ce que vous arrivez à avoir du recul sur la façon dont les choses sont gérées ici ou là, de part et d'autre de la frontière?
Je ne suis pas certaine que cela donne du recul, que la distance soit plus grande et donc le jugement comme plus sûr. Au contraire, ce que cela apporte, je pense, est une connaissance plus fine, plus précise, par exemple, de ce qui se passe en Allemagne, que si, bien sûr, nous n'y vivions pas, mais ça ne conduit pas, je pense, à avoir un jugement plus clair. Il y a simplement des informations qu'on a en plus et des propos qu'on peut entendre, qu'on n'entendrait pas si on était uniquement en France, mais cela n'aide pas beaucoup plus que cela, je crois.
Ça apporte une mesure ou une juste mesure avant de donner un jugement de valeur trop hâtif, par exemple?
Oui, sans doute, mais en même temps on est encore plus impliqué dans ce qui se passe, on est
doublement impliqué, quoi. Doublement impliqué.
Doublement impliqué, ce qui n'est pas forcément confortable ni agréable. Ça peut être aussi douloureux, finalement.
Oui, mais c'est un état de fait avec lequel vous vivez maintenant, Marie Ndiaye. Merci d'être venue au micro de la Grande Table.
Merci à vous.
Délivrance, c'est donc ce soir encore à 20h à la Maison de la Poésie pour les Parisiens, pour ceux qui habitent à Paris ou proches de Paris. C'est une mise en scène de Denis Cointe, la voix de Jean-Yves Sandret, le texte est de Marie Ndiaye et la musique de Didier Lasserre. Et puis on pourra voir Archipel Marie Ndiaye au Bouffes du Nord, toujours à Paris, excusez-nous. Toujours à Paris, c'est du 26 au 30 avril et j'espère que le texte Délivrance de Marie Ndiaye sera un jour disponible chez un éditeur. Dans un instant, c'est le journal.